Septième numéro du Sport Matin Dimanche, saison 2023-2024. En rugby, un invité exceptionnel avec nous dans quelques secondes, Vincent Merlin, président du Stade Rochelais, pour parler notamment, bien sûr, de ce match ce soir France-Afrique du Sud pour le quart de finale de Coupe du Monde. En football, cinquième tour de la Coupe de France ce week-end, Bressuire s'est bien battu face aux Chamois des Niortais qui se qualifient dans la douleur, 2-1. Dans le cadre de notre rubrique David contre Goliath, nous retrouvons aussi Fred Jarry, coach de l'Avenir 79, qui a largement été dominé par Angoulême. En Régional 3, le duel COC Bressuire a largement tourné à l'avantage de Cerizet. Un Cerizet qui a vu des changements avec notamment le président Jean Gaulier qui s'est mis en retrait laissant une double présidence. La météo de votre dimanche, soleil plus ou moins gêné par des nuages inoffensifs, des minimales de 6 à 8 degrés et comme hier, 16-17 degrés pour les maximales. Sport Matin Dimanche, c'est parti, bienvenue sur Colline.
Sport Matin Dimanche avec Cerizet Automobile, vente et réparation de véhicules toutes marques.
Avant toute chose, on salue l'arrivée d'un petit nouveau dans l'équipe des sports de Colline, ex-plume de la presse écrite, mais je vous rassure, il a toujours sa plume avec lui. Bonjour Dominique Cadu.
Bonjour David, bonjour à tous, et c'est un plaisir de rejoindre un dimanche par mois l'équipe de Colline et tous les bénévoles.
Alors le moins qu'on puisse dire, Dominique, c'est que tu commences très fort avec cet invité exceptionnel. Donc.
C'est un homme exceptionnel, Vincent Merlin, un homme plein d'humilité. Bonjour Vincent.
Bonjour Dominique.
Je suis très honoré que vous ayez accepté cette invitation ce matin de la radio Colline pour parler rugby, de la Coupe du Monde et du Stade Rochelais. L'actualité, c'est déjà cette Coupe du Monde de rugby avec les deux premiers quarts de finale qui sont disputés hier soir. Quelles sont vos impressions après les succès de l'Argentine face au Pays de Galles, 29-17, avec un essai, ça nous a fait plaisir, du Rochelais Sclavi. Et puis l'autre demi-finale, un petit peu la surprise, la Nouvelle-Zélande qui a battu l'Irlande 28-24.
Oui, ben effectivement, c'est bon, un grand plaisir de voir Joël Sclavi marquer un essai qui donne la victoire à son équipe. Mais je retiendrai plutôt la victoire des All Blacks face aux Irlandais. C'est triste pour les Irlandais qui étaient largement favoris, mais c'est aussi remarqué le renouveau de ces All Blacks que l'on a enterré, je crois, un petit peu trop tôt. Ça a été un match extraordinaire où on a pris beaucoup de plaisir. C'est vraiment un match d'évitement, contrairement à celui de ce soir où peut-être on va voir un peu plus de frontal.
Alors justement, tout un pays se passionne pour cette équipe de France qui ce soir aura 5 Rochelais dans son effectif. Est-ce que vous partagez cet optimisme français ?
Bah écoutez, je dirais que la qualité première d'une équipe de rugby, c'est l'humilité. Je pense que l'équipe de France est habitée par cette valeur d'humilité. J'espère qu'elle a conscience que le match de ce soir sera très, très dur. C'est pas parce que nous avions battu les Springboks en novembre 2022, 30-26, alors qu'ils étaient réduits à 14, que ça doit nous donner confiance. Au contraire, ça doit nous faire peur. Et je pense que si l'équipe de France sur le terrain, avec la peur au ventre, elle gagnera. Et bien évidemment, nous le souhaitons tous.
Alors, quel est votre avis un petit peu sur le cas d'Antoine Dupont ? Est-ce que vous, en tant que président, vous auriez dit non, je ne le fais pas jouer ?
Ah non, mais je ne prononcerai pas sur le cas d'Antoine Dupont. Je pense que les gens qui ont pris la décision, l'encadrement, le chirurgien, le joueur, ont pris la bonne décision. Si Antoine peut jouer, qu'il joue. Maintenant, je vais vous dire, je pense que si Antoine n'avait pas pu jouer et que les Français seraient arrivés sur le terrain sur leur capitaine emblématique, je pense qu'ils avaient la qualité aussi pour gagner au même titre qu'avec Dupont. Et je pense que ça aurait fait grandir en plus cette équipe de France qui, en gagnant un match face à l'Afrique du Sud, sans leur capitaine emblématique, c'était important pour l'avenir. Et non pas de la Coupe du Monde, parce qu'à ce moment-là, je pense que l'équipe qui va gagner ce soir risque fortement d'être championne. Championne du monde, mais je pense que ça leur aurait donné moralement une qualité supplémentaire.
Vous avez répondu à ma question, l'équipe de France peut-elle être championne du monde ? Vous dites oui si nous gagnons ce soir.
Bien sûr. Vous savez, le match d'hier soir et le match de ce soir, compte tenu des tableaux qui étaient quand même relativement déséquilibrés, l'Irlande était classée comme la favorite avec la France. Deux outsiders, pas les moindres, les All Blacks et l'Afrique du Sud. C'est vraiment, pour moi, c'était les matchs de demi-finale hier et ce soir. Maintenant, va falloir gagner quand même cette équipe d'Afrique du Sud qui sur le plan, je dirais, de l'expérience à des joueurs qui ont joué déjà la Coupe du Monde et gagné le trophée Webb Ellis au Japon. L'expérience, j'ai peur qu'elle soit du côté des Sud-Africains, mais la fraîcheur, l'inventivité et le côté naturel de nos joueurs dans leur façon de jouer peut être prépondérante face à cette équipe très physique des All Blacks.
Et on a de brillants Rochelais quand même. Donc, est-ce que vous leur avez donné un conseil par téléphone?
Ah, mais bien sûr, je leur ai dit comment il faut jouer.
Oui.
Je leur ai dit comment il fallait faire pour gagner les Sud-Africains. Non.
D'accord.
Non, loin de moi cette idée. Mais on est très fiers de voir tous nos joueurs participer à cette équipe de France, à ce championnat du monde. C'est pour le Stade Rochelais, pour le rugby de la région, vraiment un cadeau merveilleux qu'ils nous font.
Alors la transition est toute trouvée, le Stade Rochelais a gagné deux Champions Club en 2022-2023, c'est la Grande Coupe d'Europe, a été finaliste du Top 14. Est-ce que vous imaginiez ça dans vos rêves il y a presque 10 ans, lorsque le Stade Rochelais remontait en Top 14, c'était le 25 mai 2014?
Non, très sincèrement, c'est même pas des rêves qui se sont réalisés, parce qu'on ne se donnait pas le droit d'y penser, de l'évoquer même. Mais c'est vrai qu'hier, quand j'ai vu au Stade de France ce grand stade plein à craquer, ce qui était le cas contre Toulouse pour cette finale malheureuse, et puis quand j'ai vu à Marseille, quand je vois tout ce public et un même public qui encourageait l'équipe de La Rochelle, je me suis dit, mais c'est quand même incroyable que l'on ait vécu des moments pareils. C'était des moments formidables. Deux fois champion d'Europe, coup sur coup, c'est inimaginable, et on en est très fiers et très heureux pour toute la communauté du Stade Rochelais qui a fait grandir ce stade.
Une question, le 5 juillet 91, est-ce une date importante pour vous?
Lequel
le 5 juillet 1991.
Non, je...
Vous succédez à Yvan Caris comme président du Stade Rochelais.
Oui, et une date importante pour moi?
Oui.
Non, c'était... j'ai été élu président à ce moment-là, effectivement, il y a 32-33 ans. J'avais un devoir à accomplir. Après avoir été élu joueur, éducateur, dirigeant, il fallait que je sois président. C'était pas un but dans ma carrière personnelle, mais j'en ai été très fier. Et aujourd'hui, j'en suis très heureux d'avoir accepté cette responsabilité, puisque finalement, le Stade Rochelais est à un niveau. Mais... que les choses soient claires, le Stade Rochelais est devenu ce qu'il est grâce à toute cette communauté de partenaires, de joueurs, de dirigeants, d'éducateurs. Et puis, avec mon ami Pierre Vénère, on a su, et les dirigeants de ce club, les actionnaires, on a su faire grandir le Stade Rochelais. Bon, quelque part, c'est le collectif qui est merveilleux à vivre, c'est pas... le côté jeu, c'est plutôt le côté nous qui est très important dans ces moments-là.
Oui, mais vous êtes l'homme de la réussite, que vous le vouliez ou non.
Je sais, c'est ce que l'on dit, mais quelque part, effectivement, il faut bien qu'il y ait un porte-drapeau. Je suis fier de l'être, mais je crois que nous vivons ensemble tous et nous œuvrons pour faire grandir ce Stade Rochelais qui continuera de grandir, je l'espère, dans les années à venir. Mais tout le monde est remplaçable, et je dois dire que l'important, c'est que l'institution soit bien construite, bien solide sur ses bases pour que le Stade Rochelais reste un grand club.
Rendez-Sèvres, vous le savez, le rugby n'est pas le sport numéro un, mais vous avez su conquérir ce territoire, c'est même de la folie lorsqu'on parle du Stade Rochelais en Deux-Sèvres. On a un bel exemple, le Touarçais Thomas Lavaux, qui est devenu joueur professionnel au Stade Rochelais. Alors, quel conseil pouvez-vous donner à nos clubs de Sévriens?
Il y a une chose que je ne fais jamais, c'est de donner des conseils. Je parle toujours de l'expérience du Stade Rochelais. C'est vrai que quand on parle de la communauté jaune et noire, elle s'étend du sud nantais au nord girondin. Pour vous dire, c'est pas La Rochelle, c'est tout un grand territoire. Et nous travaillons ensemble, nous essayons effectivement avec les clubs de toute cette région de participer à leur évolution autant que faire se peut. Et bien évidemment, la Coupe du Monde en est la preuve. Le rugby, la comment dirons-nous, tout ce qui tourne autour du rugby fait grandir les clubs. Aujourd'hui, dans les écoles de rugby, il y a de plus en plus d'inscriptions. C'est ça qui est important, que la pratique du rugby soit forte, parce que c'est un sport très éducatif. Et je pense que l'important, c'est ça. Alors après, chacun à son niveau doit être, qu'on soit champion de réserve de Fédéral 3, comme Pilborough, c'est merveilleux. Je crois que tous les titres sont beaux à vivre. Et c'est ce que la pratique du rugby nous offre, et il faut que ça continue comme ça.
Est-ce que vous croyez que notre jeune Thomas Lavaux peut devenir un jour international en puissance ?
Ben, il a participé.
Il a déjà, oui.
Il est, mais c'est vrai que c'est tellement dur, d'arriver. C'est très sélectif, il y a de plus en plus de candidats, la compétition devient de plus en plus compliquée pour individuellement chaque joueur pour atteindre le graal du joueur, c'est-à-dire être international. Mon Dieu, on a des jeunes qui ont été champions du monde des moins de 20 ans. On a aujourd'hui des joueurs qui jouent dans l'équipe nationale. Thomas aurait pu être dans le collectif, comme Paul Boudéan aujourd'hui. Qui est la grande surprise, mais qui le mérite, parce que c'est vraiment un joueur formidable et qui va marquer aussi son passage dans cette équipe de France. Mais bon, c'est dur, vous savez, c'est très dur d'être international aujourd'hui.
Alors parlons un petit peu sport et économie. En Bocage-Bressuret, la société Célio, dirigée par votre ami Alain Liot, et depuis peu le groupe Millet, dirigé par Fabrice Millet, sont donc des partenaires en force du Stade Rochelet. Oui. Un petit mot sur eux. Qu'est-ce que vous leur apportez ? Qu'est-ce qu'ils vous apportent ?
Non, pour ces deux entreprises, bon, particulièrement pour Alain, qui est un ami personnel, si vous voulez, c'est de vivre ensemble des moments d'émotion très forts qui font que des chefs d'entreprise adhèrent aux valeurs du rugby. Le Stade Rochelet n'en est pas propriétaire de ces valeurs, mais on les vit à fond et ensemble on fait grandir un club. Le Stade Rochelet appartient à tout le monde. Nous sommes 10 actionnaires, dont Alain. Le groupe Millet vient de nous rejoindre. C'est formidable pour nous, parce que c'est une belle entreprise et un homme formidable.
Vous êtes tous des hommes formidables, en fait.
Mais oui, parce que, si vous voulez, on partage une même passion. Et quand vous partagez une même passion, vous êtes unis pour longtemps, quoi. Et quelque part, vivre ces moments forts, comme nous en vivons depuis 7 ans notamment, c'est quand même un partage extraordinaire. Alors oui, il y a beaucoup d'entreprises qui nous rejoignent. 40% de nos partenaires sont extérieurs à la Charente-Maritime. Donc tout ça pour vous dire que notre empreinte, l'image de notre club, sort largement des frontières locales. Et ça, c'est pour notre plus grand bonheur. Et nous continuons à œuvrer pour que cette image grandisse et que la communauté rochelaise, la communauté jaune et noire, soit la plus étendue, la plus régionale, grande région possible.
Que peut-on vous souhaiter encore, Vincent Merlin, de ramener le bouclier de Brennus à La Rochelle ?
Bon, que le Stade Rochelet soit un club pérenne, un club qui grandit et qui soit un grand club. Et si on est ainsi, si on est un grand club, si ensemble au quotidien, on œuvre à fond pour ce club, on aura des titres, on aura d'autres titres. Mais c'est aujourd'hui, dire j'ai envie que le Stade Rochelet soit champion de France, c'est pas pour moi l'objectif prioritaire, c'est que nous soyons un grand club pour pouvoir gagner ce titre, justement.
Merci infiniment, Vincent Merlin, de cette première au micro à Colline, et beaucoup de bonnes choses encore au Stade Rochelet, et bravo aussi à vous, parce que vous êtes un dirigeant exemplaire, plein d'humilité. Ça fait 30 ans que je vous connais et vous n'avez pas changé, vous êtes toujours le même, et je tiens à vous féliciter.
Vous êtes trop gentil, merci.
Bonne journée à vous, Vincent.
Merci, président.
Bonne journée,
merci.
Bon match ce soir.
Merci. Oui, vous aussi, le Vincent Merlin, le président donc du Stade Rochelet, invité exceptionnel de cette première partie du Sport Matin. Dimanche, on a, avant le grand match, Dominique, ce soir, France-Afrique du Sud, ça joue cet après-midi en National 2. Niort va jouer à Marmande en Fédéral 3. Notez que Choret accueille Saint-Bastien-Basgoulen, que Partenaire reçoit Saint-Nazaire en Régional 2, Pays de la Loire. Thouars est opposé à Segré. Et puis en Régional 3, l'entente Niort est opposé à Aigrefeuille et Saint-Mexant reçoit Marcy. On joue donc ce week-end, Dominique, le cinquième tour de la Coupe de France. Et les Bressurais se sont bien battus, mais effectivement, ont laissé passer les Chamois Niortais qui se qualifient dans la douleur de 2-1.
Oui, les Bressurais ont dominé la première mi-temps. Écoutons donc l'analyse de Jean-Michel Bernier.
Nous avons vécu ce soir une très belle soirée devant plus de 1800 spectateurs et une ambiance superbe. Les 20 premières minutes ont été à l'avantage des Chamois, mais ils pêchaient souvent dans la dernière passe. Et puis le FCB s'est très bien repris et pendant 25 minutes, ils ont eu très nettement l'avantage sur le terrain, récompensé par un but de M. Makebo à la 33e minute, qui coupe un centre de Leray venu de la gauche. Le FCB aurait même pu faire le break en première mi-temps sans deux interventions autoritaires du gardien niortais en dehors des 18 mètres et surtout une tête manquée de M. Makebo sur un centre de Moinet. La deuxième mi-temps a été beaucoup plus difficile pour le FCB. Les Chamois ont mieux quadrillé le terrain et ont égalisé à la 56e minute suite à un ballon perdu par le FCB en milieu de terrain. Malgré quelques contre-attaques dangereuses, Niort a pris l'avantage en toute fin de match à la 85e minute, match qui s'est terminé dans une certaine confusion après que l'arbitre ait distribué deux cartons rouges à la 90e minute suite à une chamaillerie entre l'ensemble des joueurs. Les Chamois n'ont pas volé leur victoire, mais le FCB leur a tenu la dragée haute avec beaucoup de vivacité et une très bonne organisation. Bref, un vrai match de coupe et nous avons passé encore une fois une très bonne soirée.
Bien sûr, on est déçu côté Bressurel, l'image de l'entraîneur Patrick Olive.
Déçu parce qu'il n'y a pas la finalité qui aurait été de ne pas encaisser et de les amener au tir au but, même si je pense qu'on aurait mérité peut-être de mettre le deuxième en première mi-temps. Donc au final, la satisfaction d'avoir pendant une heure été très solide et avoir joué au football, parce qu'on n'a pas fait que défendre. Et puis après, ben, forcément, la différence athlétique, de préparation, de gabarit, des joueurs professionnels, qui fait que ça devient de plus en plus dur. Et là, on a manqué de fraîcheur pour fermer tous les intervalles, mais par contre, dans l'esprit, les gars se sont allés au bout d'eux-mêmes. Donc, la déception, elle est parce qu'on prend à 5 minutes, je crois, la fin, le deuxième.
86e.
Voilà, donc les amener au tir au but, ça aurait été super. Mais sur la prestation qui a été faite, tant qu'il y avait de la fraîcheur, je pense qu'on n'a pas été ridicule contre le deuxième de National. Donc un grand bravo aux gars pour leur engagement et le match qu'ils ont fait. Jules faisait un super match, donc forcément il équilibrait toute l'équipe. Et d'ailleurs il sort sur, je pense, un geste qui est passé inaperçu mais qui n'était pas très correct. Et il se fait pousser sur la, au bord de la ligne de touche. Donc bon, voilà, bah, c'est des matchs de haut niveau. Et puis donc ça, forcément, ça a touché l'équipe qui est plus Jules dans l'équilibre. Je savais qu'il y aurait de la place pour jouer, autant peut-être pas, mais on a rien demandé de spécial. On a fait une semaine comme toutes les autres et on a exactement mis le même projet de jeu qu'à tous les matchs. Donc voilà, sauf que l'opposition était plus forte. Donc c'est bien d'avoir su élever le niveau.
Les Bressurais ont montré une belle image selon leur président Stéphane Viau.
Ouais, c'est un peu amer, ouais. C'est un peu amer, bon. Ils sont supérieurs, on est passé pas loin. On les a fait douter, je pense. C'est bien. C'est bien. Il y avait du monde. On voulait une belle fête. C'est une belle fête. Il manquait le final, quoi. On aurait marqué ce deuxième but à la mi-temps. Ça aurait peut-être été une deuxième mi-temps différente. Bon, là, on voit que la qualité technique, elle est en face. On a peut-être baissé un peu pied. La sortie de Jules a été préjudiciable au milieu. Bon, c'est dommage, mais c'est beau. C'est bien. C'est bien ce qu'on a fait. On a montré une belle image. On les a poussés dans leur retranchement et je pense qu'on les a fait douter, donc c'est une bonne chose.
Ouais, il y a eu un peu de tension, ça montre que les Chamois finalement n'étaient peut-être pas si sereins que ça.
Ouais, non, bien sûr, la tension dans des matchs comme ça, elle est là, elle est palpable. Bon, maintenant, bravo à eux, bonne continuation.
Et puis bonne continuation à FCB parce qu'il a montré de belles choses.
Ouais, bien sûr, c'est vrai que c'est. On a montré des belles choses face à du monde aujourd'hui, donc c'est sympa, c'est bien. Bravo aux joueurs. Et bravo à tous les dirigeants bénévoles du club qui ont montré des belles choses. Bravo.
Les joueurs Bressurais ont souffert physiquement en deuxième mi-temps, comme l'explique l'attaquant Léo Leray.
Un peu déçu de prendre le but sur la fin. Je pense qu'on fait une bonne première mi-temps avec beaucoup d'intensité. On a même la situation de 2-0 à 2 minutes de la fin. Après, c'était un peu plus dur en deuxième mi-temps. Je pense qu'on a pêché un peu physiquement. Et malheureusement, on prend le but à 5 minutes de la fin. Donc, dans l'ensemble, c'est quand même globalement satisfaisant.
Ouais, vous vous dites quoi à la mi-temps? Parce qu'effectivement, vous rentrez avec cet avantage, mais avec peut-être ce deuxième but qui aurait vraiment peut-être tué le match.
On se dit que tout est possible, qu'il faut continuer à faire ce qu'on a fait sur la première mi-temps. Défendre ensemble, travailler ensemble, et puis sur une contre-attaque, marquer le deuxième, mais continuer sur ce qu'on faisait.
Bon, ça reste enrichissant pour la suite.
C'est top, franchement, on a joué devant 2000 personnes, il y avait de l'ambiance, un bon match, donc non, franchement, on apprend, et puis espérons que ça se reproduise l'année prochaine.
Il y a eu un peu de tension sur le terrain, tu nous expliques?
C'est la tension d'un match de Coupe de France, je pense qu'ils étaient un peu frustrés de ne pas marquer, je ne pensais pas qu'ils s'attendaient à autant d'adversité, donc, je pense que c'est dû à ça. Mais non, dans l'ensemble, ça s'est bien passé sur la fin.
Côté Chamois, objectif rempli. Écoutons le coach Philippe Binsberger.
Bah oui, c'était notre objectif. Après, l'équipe adverse a fait son match, c'est normal. Il y a trois divisions d'écart qui, vous savez comme moi, sont gommées par ces matchs de coupe. Donc l'équipe de Bressure a fait son match. J'ai marqué un très joli but en première mi-temps. On aurait mérité d'ouvrir le score par Nesta, qui on a la meilleure occasion. On aurait pu marquer de suite. Ça nous aurait certainement mis dans un meilleur scénario. Mais bon, on ne s'est pas énervé non plus. En deuxième mi-temps, on a repositionné un petit peu notre entrejeu pour trouver un peu plus de jeu dans les intervalles et être moins en contact direct, je dirais. Parce que le contact direct était difficile ce soir. Et au bout du compte, on s'est imposé. L'objectif est atteint.
Vous dites quoi à la mi-temps, vos garçons, Philippe?
Oui, de rester calme parce que bon, on a pris un but. Après, il y a quelques garçons qui n'étaient pas dans le bon move. Il a fallu remettre un petit peu de droit. Et puis surtout, je pense que les changements aussi nous ont mis un peu plus de présence dans les interlignes. Parce que ce soir, il fallait éviter, je vous dis, le contact frontal.
Merci à Vincent Nori et à Jean-Michel Bernier pour les réactions recueillies.
On rappelle donc la qualification des Chamois-Niortais sur la pelouse des Bressuirais hier soir pour ce cinquième tour de la Coupe de France, 2-1. Toujours ce cinquième tour de Coupe de France avec l'Avenir 79 qui recevait Angoulême, une Régionale 3 face à une Nationale 2. La Régionale 3 n'a rien pu faire, défaite 5-0.
Coupe de France de football, découvrez David contre Goliath avec notre partenaire maillot midfielder, zone Manes France 1, 12 rue Vaumorin à Niort et prochainement à Bressuire.
L'entraîneur de l'Avenir 79, Frédéric Jarry, est avec nous en direct. Bonjour Frédéric.
Oui, bonjour.
Difficile début de rencontre hier lorsqu'on prend un but dès la première minute. Est-ce que tout cela a fait tomber tous les plans à l'eau?
Bon, un petit peu, surtout que vous savez que c'est une équipe qui est très très sérieuse. Il y a une équipe bien en place, athlétiquement, c'était largement au-dessus de nous. Vraiment la différence, je trouve, moi qui connais la National 3 et la National 2, où là, il n'y a aucun qui travaille, leur travail c'est le foot. Donc, ils ont presque muscu aussi presque tous les jours, et on voit que, athlétiquement, sur tous les duels et autres, c'est un niveau au-dessus. Et après, c'est vrai que de prendre un but, au bout d'une minute trente, je crois, le but c'est de tenir le plus longtemps possible et là ça a gâché un peu le choses. Après on a quand même été sérieux dans l'ensemble, ce qui a fait la différence. On a pris 4 buts sur coup de tête, donc qui était très bien tiré, et après avec un peu plus de puissance. Et nous, je pense, pas assez malin aussi dans cet exercice là quoi.
Est-ce qu'un tel match peut vous servir pour la suite?
Oui, on apprend toujours. Après, y a rien à voir entre le championnat et ces matchs-là, parce que il y a plus de différences. En face, c'est presque pas d'erreur technique. Et puis, je vous dis, physiquement, c'est quand même pas pareil sur tout ce qui est course, même duel aérien. On voit que c'est beaucoup plus explosif que nous. Après, c'est une bonne expérience pour le club. C'était un bel événement aussi. Voilà, c'est dommage qu'on ait pris le but très tôt. Je pense qu'il a gâché un peu. Mais sur l'ensemble, bon, sur 90 minutes, on n'aurait pas rivalisé non plus. Faut être honnête et conscient.
Dernière question, l'ambition pour cette saison?
L'ambition, ça serait de faire un bon maintien. Pour se maintenir assez rapidement, j'aimerais bien que ma réserve monte. Voilà, c'est surtout ça l'ambition cette année, que la réserve un peu se rapproche de nous, qu'elle monte en deuxième division. Après, je sais que ça sera compliqué, et parce que c'est un championnat qui n'est pas facile pour la troisième division. Et puis, il y a quand même 4 décembre, donc je pense que la bataille va être dur jusqu'au bout, on verra, on va prendre match après match. Maintenant, il faut passer la coupe, et puis on reçoit Montcoutant la semaine prochaine.
Merci à vous Frédéric, et bon dimanche.
Merci beaucoup.
Au revoir. Merci Fred, à bientôt sur l'antenne de Colline. Je vous rappelle donc l'élimination de l'avenir 79 de cette Coupe de France au 5e tour, battue par Angoulême 5-0. Notez que Thouars est éliminé également, battu par l'Étoile Maritime 4-1. Partenay Viennet se qualifie aux dépens de Noailles 3-2. Et puis qualif aussi de Choret qui est allé s'imposer à l'Alleu La Palisse sur le score de 3-2. Un dernier petit mot de Coupe de France. Chez les filles, on joue aussi le 3e tour et cet après-midi. Notez que Saint-Cerbouillet est opposé au FC Gâtinais. Après avoir parlé Coupe de France, on parle de championnat. Notez qu'en Régional 1 ce samedi, Chauvigny, la réserve de Chauvigny, a battu La Rochelle 3-2. En Régional 2 dans la poule A ce samedi, la victoire du Talunette sans bavure sur le terrain de Nintré. Le Talus s'impose 5-0. Sachez que cet après-midi, Montcoutan reçoit l'équipe de Beaumont. La poule C de cette Régional 2 avec un match nul hier entre les deux réserves de Choret et Libourne. Un but partout cet après-midi. Chéré-Saint-Gelais en va jouer à Angoulême le Roi. Niort-Saint-Liguer est opposé à Royan-Vaux. La Régionale 3 dans la poule A avec ce duel de Bouquin entre Cerizay et la réserve de Bressuire qui tourne largement, Dominique, à l'avantage des Cerizains. 4-1.
Oui, écoutons la satisfaction du coach cerizéen Cédric Fuseau.
On avait à cœur de reproduire ce qu'on avait fait la semaine dernière sur la première mi-temps, en mettant de l'intensité et puis de l'envie. Tout en étant rigoureux quand même. Donc je pense qu'on a fait vraiment une très très bonne première mi-temps où on a été efficace devant parce qu'on n'a pas non plus 10 occasions, mais on met 3 buts sur 4-5 situations et puis on concède quasiment rien sur la première mi-temps. Il n'y a pas une frappe de la première mi-temps, donc le bilan à la mi-temps était vraiment positif. Et après, l'idée sur la deuxième, c'était de corriger un petit peu ce qui a été un peu moins bien fait sur ces premiers matchs de l'année avec une deuxième mi-temps où on se relâche un peu. Donc moi, l'idée, je leur ai demandé de repartir à 0-0 à la mi-temps et d'essayer de ne pas perdre la deuxième. Ça veut dire qu'on aurait au moins maintenu cet écart de 3 buts. Et si possible d'entrer pour calmer un petit peu l'envie de revenir de Bressuire. Et c'est ce qui a eu lieu, donc on était vraiment, vraiment contents. Après... on a fait preuve de maîtrise sur la dernière partie du match. On était un peu moins dangereux parce qu'il y a un peu moins de jus devant pour refaire les courses. Mais dire que les seules fois où on a été en danger, c'est quand on n'a pas forcément nous très bien joué les coups sur nos sorties de balles. Donc c'est plutôt un match abouti. Sans prendre de but, on était la meilleure défense avant le match et on y sera encore à la fin de cette journée-là. Donc ça, c'était aussi un objectif. Souvent, on peut se relâcher un peu en deuxième. Ça a été le cas hein, sur certaines sorties. On aurait pu... concéder peut-être des occasions un peu plus franches, mais c'est bien. On a vraiment été cohérent du début à la fin et un match abouti. On se l'est rendu facile parce que c'était pas forcément le cas au début. Donc bien, bravo aux gars.
L'analyse est différente dans le camp adverse. Écoutons Quentin Brebion, l'entraîneur.
On a fait un non-match, on est passé au travers, ça arrive, ça nous était pas forcément arrivé sur les derniers matchs, mais on mérite la défaite, ils ont été plus forts, mais surtout nous, on n'a pas joué, donc voilà, faut se remettre au travail dès la semaine prochaine, il y a un autre derby qui nous attend, on n'a pas joué notre jeu aujourd'hui, on n'a pas appliqué les consignes, voilà, c'est un match où la seule chose que j'ai dit, c'est de retenir ce qu'on a fait pour ne pas le reproduire.
Merci à Laurent Guichetot pour les réactions recueillies.
Notez dans cette régionale 3, poule A également, que Caponis a battu Mignalou 2-1. Puis ce dimanche, Interbocage reçoit Vrine et Ozon est opposé à la réserve de Neuville. À propos du COC Foot, le club tenait son assemblée générale cette semaine et qui connaît des changements, Dominique?
Oui, en effet, depuis le 1er septembre, Cerizay Arthur Poincet est donc le nouveau conseiller technique départemental en charge du développement de la pratique du foot chez les vétérans et de la formation des éducateurs. Son poste de responsable technique jeune est en vacances COC, il est occupé aujourd'hui par Thibault Langlois. Âgé de 30 ans, ce dernier arrive de l'US Granville, où il était chargé de la préparation physique de l'équipe première, de la prise en charge d'une équipe senior, mais aussi responsable des U18. Quelle sera sa mission au COC Football? C'est la question que nous lui avons posée.
Mon rôle et mes missions sont très très larges, mais on peut le résumer sur la gestion du pôle sportif jeune, donc l'encadrement de toutes nos catégories jeunes et des éducateurs pardon qui vont avec, donc la formation des éducateurs et puis la mise en place, la gestion des compétitions et des entraînements pour nos jeunes catégories. Alors l'objectif général du club à moyen long terme, il est de retrouver le niveau régional sur nos équipes de jeunes. C'est l'objectif annoncé annoncés par nos dirigeants. Maintenant, je pense qu'il y a aussi d'autres axes qui vont nous permettre justement à long terme d'atteindre cela, notamment sur l'encadrement de nos éducateurs, les accompagner dans la formation, et puis aussi mettre en place une méthodologie d'entraînement commune à toutes nos catégories.
Avec une passerelle qui est faite avec les établissements scolaires, je pense notamment au collège.
Oui, tout à fait. On a avec le collège privé une option foot, donc qui permet aux 6e, 5e et 4e, 3e qui le souhaitent d'avoir une séance supplémentaire dans la semaine. Donc dans cette optique-là, on est club support. Donc oui, c'est une piste. Je pense que cette piste-là, elle doit être creusée et poussée un peu plus loin en sollicitant aussi peut-être l'établissement public et en réfléchissant tous les trois, à savoir le collège privé, le public et nous, club, à une section sportive labellisée FFF. Je pense que c'est un axe indéniable qui nous permettra d'augmenter le niveau de pratique de nos jeunes.
L'objectif, ce n'est pas forcément de les recruter au sein du club.
Non, l'objectif, c'est pas forcément de recruter des jeunes. Je pense qu'on a largement le vivier sur le groupement et la quantité de joueurs pour faire de la qualité. La section sportive, si tel est le cas, qu'elle existe un jour, est de travailler sur un triple projet pour nos jeunes, donc éducatif, sportif et scolaire. Voilà, il n'est pas de recruter des jeunes de l'extérieur, il est d'améliorer les garçons qui souhaitent être compétiteurs et faire un peu plus de séances dans la semaine.
Autre changement, le président Jean Grelier donc laisse sa place après 5 saisons à deux coprésidents, Bertrand Gonor et Alexandre Michneau.
Oui, c'est la continuité du travail qui a été effectué par Jean Grelier. Bertrand en tant que vice-président, cette année on a décidé de faire une coprésidence ensemble. Moi je suis arrivé au club l'année dernière en m'occupant des seniors féminines, avec qui on a gagné la coupe du Poitou et le championnat. Et puis de fil en aiguille, Jean m'a rencontré plusieurs fois en me sollicitant pour venir rejoindre le bureau. Donc j'ai commencé par faire quelques réunions le lundi matin et puis ça m'a plu. Et puis avec Bertrand, on a dit mais pourquoi pas faire quelque chose à tous les deux.
Est-ce qu'on y réfléchit quand même à deux fois avant de se lancer ?
Oui, parce que c'est un engagement très lourd. D'ailleurs, on le voit depuis qu'on a pris les rênes, entre guillemets. C'est tous les soirs, c'est tous les jours, et puis avec des décisions qui peuvent être importantes, qui font pas toujours plaisir. Et oui, c'est un investissement lourd pour nous, pour la famille, et puis on a notre métier à côté. Donc voilà. Heureusement, Jean nous a quand même permis bien préparer le terrain, donc ça facilite un peu les choses quand même.
N'oublions pas que c'est du bénévolat quand même, hein.
Exactement, c'est du bénévolat, hein. Donc on est là, on n'est pas payé par le club, nous on est là pour faire avancer le club tous ensemble, le COC, et puis que tout se passe bien, quoi.
Qu'est-ce qui vous motive finalement ?
Oh ben moi c'est l'amour du club, hein. Comme je vous le disais tout à l'heure, ça fait 43 ans que je suis dans le club. Mon fils joue dans le club, mon père a joué dans le club, donc c'est l'amour du club tout simplement, et voilà, donc c'est une passion.
C'est important d'être à deux.
Bah, disons, comme nous avons nos entreprises, c'est plus facile quand on est deux que quand on est tout seul. Moi, je vois, l'autre jour, j'ai pas pu faire une réunion parce que j'avais une réunion avec mes employés. C'est Bertrand qui y est allé, et puis bah, vice-versa, quoi.
C'était un reportage signé de Patrice Bémanangy.
Allez, en Régional 3, poule B, notez que ce samedi, le FC Autise a fait un match nul face à Confolon, un but partout. Ce dimanche, le Pays Mélanois va jouer sur la pelouse des Portugais de Châtellerault. Et vous y accueille Noyer, la poussée de cette Régional 3, avec deux résultats hier. Marraine qui a battu Selverine, 3-2. Et Saint-Palais qui a dominé Niort-Saint-Léguerre, 2-0 cet après-midi. Saint-Florent accueille l'équipe de Mata. Comme d'habitude, on termine avec Départemental 1 et 2. La page football avec un résultat hier en départemental, une match nul entre Hervaux-Saint-Jouan et Gatifoot, 2-0. Les affiches de cet après-midi, Effre-Fort-Praec, Saint-Cerbouillé, Le Talu, Saint-Varon-Pierre-Gé, Pays de Loing, Pays Mexanté, Saint-Aubin-le-Clou, Sud-Gâtine, Étoire qui accueille Bressuire. Départemental de Poule Nord, ça joue. Tous les matchs se jouent cet après-midi avec Portugais de Cerizay face à Terve, FC Comores, Beaulieu-Breuil, Chanteloup-Cour-les-Chapelles, Saint-Sauveur, Noyobier, Montcoutan, Le Pierre-Gentonnet face à Cerizay, Pays Butenzer accueille Coulonges-Toircey. Deux résultats en départemental 2, Poule Sud avec hier la victoire du pays néo-créchois face au FC Boutonnet 3-1. Chouin est allé s'imposer 3-0 sur la pelouse de Val de Boutonne. Cet après-midi, Brulin accueille Fontenay-Saint-Symphorien et Chiry-Saint-Gelais jouera face au FC Autiz. Mosée sur le Mignon accueillera Beauvoir et Venise Verte fera face à Parthenay. Vienne et la page basket, Dominique, avec la Betclic Elite.
Oui, le Cholet a gagné 90-81 hier soir à Limoges. Une victoire importante des hommes de Laurent Villa qui confirme leur excellent début de saison.
En Pro B, notez que Angers a battu Fos-sur-Mer 92-88, que Nantes s'est imposé face à Boulazac 83-75, la victoire de Vichy-Clermont sur le parquet de Poitiers 93-79 et La Rochelle qui est allée s'imposer à Chalon-Reims 82-77. En Ligue féminine, ça joue cet après-midi pour Angers et La Roche. Sur Yon, Angers va jouer à Landerneau, La Roche-sur-Yon en déplacement aussi à Villeneuve-d'Ascq. National 2 masculine avec la défaite de l'AS Niort à Montgaillard. Les Niortais ont été battus 77-65. National 3 féminine. Et ce résultat avec la victoire de Saran net face à Olivet 85-51. Cet après-midi, les Bressurais accueillent les Herbretaises. Les Chorésiennes joueront face à l'équipe réserve du Limoges ABC. Rievi, est opposé au Poinçonnet. Et Chantonnet Saint-Germain s'en va jouer du côté de Vertou. La National 3 masculine avec un résultat ce samedi pour la Séguinière battue à Brissac 88-64. En pré-nationale féminine, sachez que la réserve de Bressuire va jouer sur le parquet de la réserve de Saint-Delphin cet après-midi. Régionale 2 féminine, ça joue aussi cet après-midi pour la réserve de Choret, les filles qui accueillent l'équipe de Libourne. La régionale 2 masculine avec un résultat pour la réserve de l'Aisnior battue qui s'est imposée sur le parquet de la réserve du CEP Poitiers 87-74. En régionale 3 féminine, hier la Chapelle Saint-Laurent battue sur son parquet, c'est Noyers-les-Aubiers, les filles de Noyers-les-Aubiers qui sont venues s'imposer 65-63 et puis Parthenay avec un tout petit score qui s'impose quand même face à Neuville 37-32. Cet après-midi, le BC Cerisien reçoit Cognac et le Pays Argentonais accueille le Pays Mélusin. Quelques résultats en mots, un mot de Ander et quelques résultats de Ande pour terminer en National 1 masculine avec un déplacement pour Pouzauges cet après-midi. Pas forcément si loin que ça. Ils s'en vont jouer à Rozelle, les joueurs de Pouzauges. En National 3 féminine, sachez que Lezay a été battu à Périgueux 34-23. Le Praec a été dominé à La Rochelle 40-21. On termine avec la pré-nationale masculine et la victoire de Niort-Souchet dans la salle de Chance-Vinel 36-32. Moncoutant battu à Lezay-Essel 26-25. Voilà, Dominique.
Ce dimanche, un dernier rendez-vous important. La Coulée Verte de Niort rassemble près de 4000 coureurs à pied. Départ du semi-marathon à 14h30 à Niort avec 1800 participants. Enfin, pour cette première, je tiens à rendre hommage à deux serviteurs du sport de Sévrien qui nous ont récemment quittés. Bertrand Marchand, l'entraîneur emblématique de Toirfoot, et Gilles Bouju, qui était dans l'organisation de Paul Thomas de la course professionnelle Moléon-Moulin, devenue Cholet-Pays de Loire.
Merci beaucoup, Dominique.